écoutez RFI à Paris, N'Djamena, il est 7h30, 8h30 à Goma.
RFI Matin.
Lors du journal de Vincent Dublange, les Kivu, toujours à la une de l'actualité africaine, Vincent, tandis que des combats sont signalés au sud.
Oui, un peu plus au nord, à Goma, les camps de déplacés se vident de leurs habitants. Reportage à lire sur notre appli RFI. À Kinshasa, on donne son sang pour les combattants. Vous allez entendre des témoignages dans ce journal. Les organisations non gouvernementales africaines, ou celles qui sont actives en tout cas sur le continent, ressentent déjà les conséquences de la suspension pour 3 mois des aides américaines. On va en parler. On évoque aussi cet enlèvement samedi au Niger de 2 ressortissants chinois. Au Nigeria, ces Ivoiriens appâtés à Abuja par de fausses promesses d'exil en Europe. Certains ont été secourus, ils sont attendus aujourd'hui à Abidjan. Notre dossier, on sera à Dakar avec ses cours d'anglais pour les petits Sénégalais. C'est une mesure qui est entrée en vigueur il y a quelques semaines, qui ne fait pas encore l'unanimité, en tout cas chez les professeurs.
En République démocratique du Congo, l'ONU évacue les familles de son personnel.
Elles vont quitter Kinshasa, décision annoncée hier après-midi avec effet média et pour une durée de 3 mois sans que l'on en connaisse pour l'instant les raisons. La capitale de la RDC, d'où les regards continuent de se tourner à quelques 1500 km vers l'est, dans les Kivu où des combats sont rapportés, dans le sud Kivu et où les camps de déplacés de Goma au nord Kivu se vident. Le M23 et l'armée rwandaise expliquant aux déplacés qu'ils peuvent rentrer chez eux d'après les organisations de défense des droits humains. À Kinshasa, la solidarité avec l'Est congolais passe par le sang. Une collecte est organisée depuis hier au siège du Parlement, le Palais du Peuple. Reportage de notre envoyé spécial, Alexandra Banjon.
Sous une grande tente blanche, une vingtaine de personnes assises sur des chaises en plastique attendent pour donner leur sang. Mais avant cela, le docteur Egide Kalinda procède à un examen rapide.
C'est-à-dire, nous devons nous rassurer que la personne est en bonne santé. Donc, nous prenons la tension artérielle, la pulsation, et nous posons certaines questions pour savoir est-ce qu'il n'y a pas une pathologie chronique. Et si tout va bien, alors on l'envoie au prélèvement.
Les donneurs sont ensuite allongés sur des transats, une aiguille plantée dans l'avant-bras, grâce N'Golo, une poche de sang posée sur le ventre, serre et desserre frénétiquement le poing pour activer la circulation sanguine.
Je n'ai pas de famille là-bas, mais famille c'est la RDC. Je ne peux pas accepter, moi, garder le sang avec moi. Et puis pour nous, il y a des militaires qui sont en train de mourir à cause d'hémorragie. Et raison pour laquelle nous avons accepté de venir en tant que patriotes.
Les donneurs sont principalement de jeunes hommes. Sarah Malonda est l'une des rares femmes présentes. Médecin, elle s'est laissée convaincre par son grand frère.
En étant médecin, cela ne suffit pas, mais m'a conscientisé en tant que patriote pour venir donner mon sang et sauver au moins une vie. Il a dit que les gens pour qui nous donnons ce sang, ce sacrifice, ils ont tout abandonné ici pour aller se battre, nous défendre. C'est un prix que nous, on ne pourra pas payer pour eux.
Les autorités espèrent ainsi collecter 5000 poches de sang à l'issue de cette campagne de dons. Alexandra Banjon, Kinshasa, RFI.
Et cette opération doit durer 4 jours. Que devrait faire l'Union africaine à propos de la situation dans l'Est de la RDC? On a posé la question à l'un des 3 candidats au poste de président de la commission de l'UA, le malgache Richard Randiamanandrat, qui développe aussi ses propositions pour la commission de l'UA. Il n'a pas peur du lion Raila Odinga, qui est l'un de ses concurrents. Et il le dit à Christophe Poix-Bouvier dans 10 minutes.
La suite de votre journal, Vincent, aux États-Unis sur une décision de la nouvelle administration qui a déjà d'énormes conséquences sur le terrain.
Oui, ce décret de Donald Trump qui suspend l'aide américaine vers l'étranger, sauf pour l'Égypte et Israël. Et sauf pour certains programmes d'aide d'urgence. Suspension pour réflexion pendant les 3 prochains mois. L'organisation non gouvernementale Alima, basée à Dakar, est spécialisée dans la médecine d'urgence, dans les soins médicaux. Elle est présente dans 13 pays à travers le monde, principalement en Afrique. Plusieurs de ces programmes ont déjà dû être réduits, notamment au Mali, et leur pérennité même est directement menacée, David Baché.
L'aide américaine, c'est 25%, un quart des financements d'Alima. Ces derniers jours, l'ONG a déjà reçu 5 ordres de suspension pour des projets médicaux en situation de crise au Cameroun, au Tchad, en Haïti et au Mali. Henri Leblanc, directeur adjoint d'Alima.
Nous, on est assez inquiets sur des pays comme le Mali, où on met en œuvre sur des financements américains des projets dans des districts sanitaires comme Nyono, Massina, Bandiagara, des zones où l'accès aux soins est très 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 fragile. Ça veut dire dépasser patients qui ne seront pas traités, des bénéficiaires qui n'auront pas accès à du suivi médical. Pour les 90 jours à venir, si nous devons suspendre les activités, c'est à peu près 40 000 patients qui n'auront plus accès aux soins.
Les activités concernées ont immédiatement été réduites, mais pas fermées, en attendant d'y voir plus clair. Quelques exemptions au décret signé par Donald Trump ont été annoncées, par exemple pour les médicaments essentiels à la survie. Mais le manque d'indications fournies par l'agence d'aide américaine complique encore les choses.
Les informations du USAID ne nous permettent pas de nous assurer que, malgré les exceptions dont on nous a informé ces derniers jours, les activités d'Alima sont sécurisées. Ce dont nous avons besoin assez urgemment, c'est de clarification pour savoir ce que nous pouvons continuer comme type d'activité médicale et ce sur quoi nous devons trouver des alternatives, sachant que trouver des alternatives prend du temps et que ce temps, c'est des patients que nous ne pourrons pas toucher.
Si les financements américains devaient être remplacés, Alima estime à 1 million de dollars pour la seule période des 90 jours de gel la somme à trouver en urgence.
Et c'était une information donnée par Donald Trump. Samedi, le président américain qui annonçait que l'armée américaine avait traqué et tué un responsable du groupe État islamique dans le nord de la Somalie. Le gouvernement de la région semi-autonome du Puntland et les autorités de Mogadiscio confirment que des frappes américaines ont bien tué des figures clés, je cite, du groupe État islamique.
Vous écoutez RFI, il est 7h36 à Agadem au Niger. Deux ressortissants chinois ont été enlevés ce samedi.
On l'a appris hier, Andréane. Deux militaires sont morts également. Cette région de l'est du Niger voit les raptes se multiplier. C'est là où la terre est forée et le pétrole pompé pour ensuite être envoyé à travers le désert vers le port béninois de Semekpoji. Les forces de sécurité nigériennes se sont lancées à la recherche des ravisseurs, pour le moment sans succès, Paul Lorgerich.
Les deux ressortissants chinois tentaient de rallier la zone de Faringa, non loin du grand site pétrolier d'Agadem, à l'est du pays, lorsque leur véhicule a été attaqué par un groupe d'hommes armés non identifiés. Après avoir tué les deux gardes nationaux qui assuraient la sécurité des techniciens chinois, les assaillants sont repartis avec les deux otages. Sitôt l'alerte donnée, un détachement militaire s'est lancé sur les traces des ravisseurs. La compagnie chinoise CNPC, qui exploite le pétrole nigérien, ne s'est pour le moment pas exprimée sur le sujet. En revanche, la hiérarchie de la garde nationale a confirmé dans un message radio diffusé hier matin la mort de ces deux éléments issus de l'escadron de Mayaï. Selon plusieurs sources, cette attaque serait un acte de vengeance. Le 30 janvier dernier, quatre orpailleurs auraient été assassinés par l'armée nigérienne, provoquant un regain de tension dans la région. Ce n'est pour autant pas la première fois que des ressortissants chinois sont la cible d'enlèvement dans la zone. En juillet 2024, la CNPC avait par ailleurs annoncé la suspension de ses activités sur le site d'Agadem en raison des attaques terroristes perpétrées contre le site pétrolier.
Paul Lorgerie, traite d'État, expulsion et vente de migrants de la Tunisie vers la Libye. C'est le titre d'un rapport présenté la semaine dernière au Parlement européen par un collectif de chercheurs anonymes. Une trentaine de témoignages qui semblent indiquer que la Tunisie vend des migrants en Libye voisine. Les détails sont à lire sur l'appli RFI.
Des migrants pris au piège sans avoir eu à traverser le désert. On parle maintenant de ces Ivoiriens coincés au Nigeria.
L'ambassade de Côte d'Ivoire à Abuja tire la sonnette d'alarme. Un vaste réseau d'escroqueries piège des jeunes attirés au Nigeria par la fausse promesse d'un départ vers l'Europe. Abdulaziz Diallo.
Ils rêvaient d'un avenir meilleur en Europe, mais leur voyage s'est arrêté brutalement au Nigeria. Un réseau bien organisé leur faisait miroiter une traversée vers l'Eldorado moyennant entre 500 000 et 3 millions de francs CFA. Une somme conséquente pour un piège bien ficelé. Une fois sur place, les choses basculent. Leurs documents administratifs sont confisqués, les contacts avec l'extérieur coupés. Piégés dans un système d'exploitation, ces jeunes Ivoiriens se retrouvent à la merci de leurs ravisseurs. Difficile pour l'heure de savoir combien ils sont. Ces derniers mois, l'ambassade de Côte d'Ivoire à Abuja a recueilli plusieurs rescapés. 10 d'entre eux ont été rapatriés et devraient arriver cet après-midi à Abidjan, où ils seront accueillis par la direction des Ivoiriens de l'extérieur et l'OIM. Mais de nombreux autres restent encore bloqués au Nigeria, livrés à eux-mêmes. Dans son courrier, la représentation diplomatique s'inquiète. De nombreux autres compatriotes se trouvent encore en situation de détresse au Nigeria, pris au piège des mêmes réseaux d'arnaques. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Au Sénégal, un nouveau scandale montre l'ampleur des violences envers les enfants et notamment les jeunes filles.
Une vidéo virale circule sur les réseaux sociaux dans laquelle un chauffeur de bus s'adonne à des attouchements sur une jeune fille en plein trajet. Le chauffeur de bus filmé par des passagers a finalement été arrêté par la gendarmerie. Plusieurs associations de défense des enfants ont dénoncé cet acte. Mamadou Wane, sociologue et spécialiste reconnu au Sénégal de la protection de l'enfant, invite l'État sénégalais à durcir les sanctions contre les auteurs de tels actes, mais aussi à promouvoir la sensibilisation.
Comme beaucoup de pays dans le monde, le Sénégal est confronté au phénomène de violence et abus sur des enfants, y compris les violences sexuelles. Qu'est-ce que l'État fait? Moi, je pense qu'il y a tout un dispositif institutionnel de protection de l'enfant. Tous les départements qu'on compte le Sénégal, il y a ce qu'on appelle les comités de protection de l'enfant, qui regroupent les institutions de l'État et les acteurs de la société civile qui font un travail de prévention et en même temps de prise en charge. Mais moi, je pense que ce que l'on doit faire, c'est renforcer la répression. Il y a pas mal de lois qui ont été votées, qui existent, mais moi, je pense qu'il faut les renforcer. Mais surtout faire un travail de prévention, de communication pour le changement de comportement dans toutes les langues nationales qui doit être diffusé dans les lieux de transport partout. Voilà les deux actions, à mon avis, qui sont des actions prioritaires.
Madouane, joint par Birahim Touré.
On reste à Dakar pour le dossier de cette édition.
Une édition qu'on va finir en anglais facile, Andréane. Depuis le 14 janvier, les petites Sénégalaises, les petits Sénégalais apprennent l'anglais à l'école élémentaire et pré-élémentaire. Une mesure des nouvelles autorités mise en place dans 659 écoles pilotes à travers le pays. C'est à la fois une histoire d'ouverture d'esprit et d'ouverture de perspectives professionnelles futures. Juliette Dubois au tableau dans une école du quartier des Maristes.
Tous les mardis et jeudis désormais, c'est anglais pour cette classe de CM1. C'est le deuxième cours aujourd'hui. Les enfants apprennent les salutations de base. Il s'agit dans un premier temps de découvrir cette nouvelle langue. Seulement une heure par semaine en CM1 et en grande section dans les écoles pilotes. Première difficulté, de nouveaux sons à apprivoiser.
Repeat, I am from. Ici, nous avons des ethnies. Où il y a certains sons qui n'existent pas.
Joseph Ndiaye est l'instituteur de la classe.
À Ziguinchor, il y a une ethnie qu'on appelle Dolakassa, où il n'existe pas la lettre P, par exemple.
Malgré tout, les enfants se prennent déjà au jeu.
Je pense que c'est très intéressant. Ça me permettrait de communiquer avec les étrangers.
Il y a beaucoup de pays qui ne savent pas parler français, mais ils savent parler l'anglais.
Par exemple, tu aimerais aller dans quel pays?
États-Unis, pour travailler là-bas pour ma famille. Et l'Angleterre, jouer là-bas au football.
L'idée des autorités est d'ouvrir les élèves au monde, mais aussi de mieux les préparer au collège et au lycée.
L'anglais est enseigné de la 6e à la terminale.
Aïssatou Sissé, du bureau anglais au ministère de l'Éducation nationale.
Mais à la fin de cette année, en général, les élèves communiquent à peine en anglais. Donc nous avons bon espoir qu'en introduisant l'anglais à cet âge, ces compétences-là seront beaucoup plus améliorées.
L'année prochaine, le dispositif devrait être étendu à toutes les classes de CM1 et introduit au CE1 et au CM2. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Et du côté des enseignants, certaines réserves sont vite apparues. Les 659 professeurs d'école comme Joseph Ndiaye, que vous avez entendu dans le reportage, ont été retenus sur plus de 3000 candidatures, mais ils aimeraient une revalorisation salariale. Écoutez Amidou Diédiou, il est le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal. Selon lui, environ un tiers des enseignants retenus a même boycotté la mesure pour sa première semaine.
Il y a quand même cet élan de précipitation que nous n'avons pas compris. Il n'y a pas eu de temps de négociation, de discussion sur le principe à l'annonce de l'idée. On a juste été informé en tant que syndicat que le gouvernement a pris la décision. Jusqu'à ce jour, il n'y a aucune compensation financière. Et c'est somme toute quand même une tasse supplémentaire qui est demandée. Il n'y a aucun document, aucun support didactique sur la base duquel il doit faire l'enseignement. Nous sommes allés dans les établissements où effectivement les enseignants ont démarré les enseignements apprentissage sur la base de l'anglais, mais nous nous sommes rendus compte également qu'il y a ailleurs où les enseignants ont décidé systématiquement de ne pas faire le cours parce que, justement, n'ayant pas bénéficié de l'indemnité qui a été demandée, le principe, il n'est rejeté par personne, tout le monde sait, mais la place qu'occupe l'anglais dans l'échiquier mondial, je pense qu'il est important qu'on examine ensemble la faisabilité de cette préoccupation dans la perspective de la généralisation. Jusqu'où est-ce que cela est soutenable? Faut qu'on en parle.
Un dossier signé de Juliette Dubois, notre correspondante, l'une de nos correspondantes à Dakar.
Merci Vincent Dublanche.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.